Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ces temps de crise, on a souvent tendance à oublier que dans le passé, la France a connu des moments aussi durs et peut-être davantage que l'époque actuelle. Heureusement, Franck Ferrand est là pour nous le rappeler. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. 1356, 1420, 1525, 1649, 1712, 1792, 1870, 1940, les dates noires ne manquent pas dans l'histoire de France. Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder un peu sur celle de 1712, à l'occasion de la parution dans la collection Portrait chez Belin d'une jolie biographie de Fadi El Hadj sur le maréchal de Villars, véritable sauveur du royaume en ce moment difficile.
Alors le maréchal de Villars est ce chef de guerre qui à deux reprises a sauvé la France de Louis XIV d'une invasion ennemie.
Oui, grâce à la bataille de Malplaquet, qui n'est pas tout à fait une victoire, mais qui a contenu l'ennemi en 1709, et puis à la victoire, grande victoire de Denain en 1712. C'est la période de 3 ans comprise entre ces deux batailles que je vous propose d'ailleurs de revivre, en compagnie du biographe de Villars, donc, et de notre ami Jean-Christian Petit-Fils. Nous allons traîner nos guêtres sur les champs de bataille du grand siècle, mais aussi et peut-être surtout, disons-le, sous les dorures de Versailles et de Marly.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
On parle souvent du grand hiver de 1709. On met un Y souvent à hiver, vous savez, hiver rigoureux et meurtrier, si rigoureux qu'à Versailles même, le vin, dit-on, gelait dans les carafes. Mais on oublie souvent d'ajouter qu'il n'a été que le prologue d'une année terriblement difficile pour des raisons stratégiques et diplomatiques. On est alors 8 ans après l'acceptation par Louis XIV de la couronne d'Espagne pour son petit-fils qui règne donc maintenant à Madrid sous le nom de Philippe V. L'Europe presque entière s'est coalisée contre Versailles et Madrid. On va appeler ça la guerre de succession d'Espagne. Les envoyés du vieux Louis XIV mènent à La Haye, enfin à Gertruydenberg exactement, des négociations de paix. Mais en dépit de la bonne volonté de la France, les alliés, tous ces alliés contre elle, ne font que relever sans cesse leurs conditions. Et voilà le grand roi, alors qu'il a promis aux Français un traité de paix, le voilà obligé à continuer la guerre. Pour s'en expliquer, il va faire ce qu'aucun roi n'avait jamais fait avant lui. Il va s'adresser directement aux Français à travers une lettre qu'il a rédigée lui-même et qu'on va faire lire dans toutes les paroisses du royaume et sur la plupart des places publiques. Oyez, oyez, bonnes gens, c'est le 12 juin 1709. Le grand historien François Bluche, dans un clin d'œil, a d'ailleurs appelé cette adresse de Louis XIV à ses sujets « l'appel du 12 juin ». Voici ce que dit le roi. L'espérance d'une paix prochaine était si généralement répandue dans mon royaume que je crois devoir à la fidélité que mes peuples m'ont témoignée pendant le cours de mon règne la consolation de les informer des raisons qui empêchent encore qu'ils ne jouissent du repos que j'avais dessein de leur procurer. Louis XIV s'explique en vérité très simplement. « J'avais accepté, dit-il, pour rétablir la paix, des conditions bien opposées à la sûreté de mes provinces frontières. Mais plus j'ai témoigné de facilité et d'envie de dissiper les ombrages que mes ennemis affectent de conserver de ma puissance, plus ils ont multiplié leurs prétentions. » Et Louis XIV en appelle vraiment au sentiment des Français. « Je passe, dit-il, sous silence les insinuations qu'ils m'ont faites de joindre mes forces à celles de la Ligue et de contraindre le roi d'Espagne, mon petit-fils, à descendre du trône. » Et il dit « Il est contre l'humanité d'imaginer qu'ils aient seulement eu l'idée de m'engager à former contre une pareille alliance. » Et lettre de Louis XIV se termine par un paragraphe très célèbre, une sorte de morceau d'anthologie. « Aussi, dit le roi, quoique ma tendresse pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j'ai pour mes propres enfants, quoique je partage tous les maux que la guerre fait souffrir à des sujets aussi fidèles, et que j'ai fait voir à toute l'Europe que je désirais sincèrement les faire jouir de la paix, je suis persuadé qu'ils s'opposeraient eux-mêmes à la recevoir à des conditions aussi également contraires à la justice et à l'honneur du nom français. » Ainsi, Louis XIV continue la guerre. Heureusement pour lui, il dispose d'un grand capitaine particulièrement chanceux sur les champs de bataille, Claude Louis Hector, duc et maréchal de Villars.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre premier invité, Franck, sur Europe 1, l'historien et écrivain Jean-Christian Petitfils, spécialiste de l'histoire et de la société de l'Ancien Régime. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Louis XIV chez Perrin, réédité en Tempus.
Bonjour Jean-Christian Petitfils, merci d'être fidèle au poste, si je puis dire, puisque nous allons parler d'armée, de bataille aujourd'hui. Alors, cette année 1709 avait mal commencé pour des raisons d'abord climatiques. Je parlais tout à l'heure de ce grand hiver.
Absolument. Alors, au contexte militaire et politique absolument
désastreux,
dramatique,
oui.
Toute une série de défaites, la demande au mois de décembre 1708 de pourparler de paix par Louis XIV, eh bien s'ajoute en effet un désastre climatique, ce qu'on appelle le grand hiver.
Températures qui chutent.
Alors voilà, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1709, chute de 20 degrés de température en une seule journée. Il fait moins 25 en Beauce. Ce temps épouvantable dure jusqu'au 24 janvier. Il fait moins 18 à Paris. La Seine, la Somme, la Garonne, le Rhône gèlent. Même la mer Méditerranée à Marseille, dans le vieux port.
Incroyable, oui.
On n'avait jamais vu ça. Et puis une deuxième vague, le 4 et 8 février. Une troisième vague, le 22 février. Une quatrième vague, le 10 mars. Un peu partout en France, les chênes éclatent. En Provence, les oliviers, les orangers sont détruits. Le bétail meurt. On voit réapparaître les loups et les loups se mettent à attaquer les bergers, les jeunes bergères. C'est quelque chose d'épouvantable. Et on voit sur les registres paroissiaux morts de faim, trouvés dans les chemins. Il y a 630 000 morts
oh là là,
en
oui.
plus de la mortalité habituelle.
Donc à ce qu'on appelle un pic de mortalité.
Voilà, exactement. Pensons à nos 15 000 décès au moment de la canicule de 2003. Mmh. On est dans un autre
630 000.
Et il faut dire que ça s'ajoute à le désastre aussi climatique de l'année 1693-1694,
voilà,
où là, il y a eu 1 300 000 morts, c'est-à-dire autant que la guerre 14, dans un pays deux fois moins peuplé. Oui. Il faut avoir ces chiffres en tête pour comprendre la fin
du règne
de Louis XIV.
Oui, oui.
Et là, Louis XIV n'est pas responsable,
de
ce drame.
Il n'est certes pas responsable, mais il faut bien expliquer que dans le décompte de ces morts, il y a évidemment tous les morts de famine, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des morts par le froid, c'est souvent des morts parce
morts
qu'il
de famine,
y a
bien
une
sûr,
misère
le,
terrible.
Le prix des blés monte de façon vertigineuse, est multiplié par 10, on réclame du pain, le carrosse du grand dauphin est arrêté à Paris, du pain, crie la foule, il y a des émeutes, et donc le royaume est prêt de s'effondrer.
Et comme si ça ne suffisait pas, évidemment, on en rajoute, c'est-à-dire que l'État, à ce moment-là, perçoit des impôts parce qu'on est dans cette situation très dure, militaire. Intenable, puisque la France toute seule doit tenir tête à toute l'Europe. C'est incroyable.
Quasiment. Donc les contrôleurs généraux des finances, Chamillard, puis Desmarais, évidemment, sont au nid. On a ajouté...
Ce sont pas des très grands ministres en même temps, enfin, en tout cas
sûr.
Chamillard.
Hein. Chamillard, non. C'est un joueur de billard, comme dit Saint-Simon.
Oui.
On a ajouté deux impôts, la capitation qui est déjà un impôt assez ancien, qui date des années 90, et puis le dixième. Mais l'argent ne rentre pas dans les caisses, donc c'est très très difficile. Là, on
ces
est,
impôts sont alors on peut même plus dire impopulaires à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils sont vécus comme un véritable scandale.
Il y a un rejet complet de la fiscalité royale. Oui.
Et donc le roi demande à ses diplomates, demande à ses émissaires de tout faire pour aller vers la paix. Or, il n'est pas question
alors,
de paix. C'est-à-dire que les alliés, eux, sont
les coalisés. Les coalisés, eux. Poussent en avant leur pion, voyant la faiblesse du roi. Le roi qui est prêt à abandonner Strasbourg, qui est prêt à abandonner Lille, même toutes ses conquêtes, à revenir quasiment aux conquêtes, à la France de 1648, avec un parti défaitiste, animé en grande partie par Madame de Maintenon. Donc le roi est dans une situation très, très pénible aussi à la cour elle-même.
C'est ennuyeux que le parti défaitiste soit animé par Madame de Maintenon, parce que comme elle est la femme morganatique du roi, évidemment, il vit dans sa compagnie permanente. On ne peut pas dire que ça donne tellement le moral, forcément.
Exactement.
Et pour expliquer ce qui se passe, tout est né, en tout cas pour ce qui est de cette situation politique désastreuse, tout est né de l'acceptation par Louis XIV du testament de Charles II d'Espagne pour son petit-fils le duc d'Anjou. Pourquoi est-ce que Louis XIV a dit oui à ce testament espagnol ? Mais c'est ce que nous allons voir dans un instant.
au cœur de l'histoire.
Et Franck, vous nous ramenez trois siècles en arrière aujourd'hui sur Europe 1 jusqu'en 1712, en un moment où la France était au bord du précipice.
Oui, ces années difficiles, hein, 1709, 10, 11, 12, on ne sait pas si les alliés, si cette Europe coalisée ne va pas tout simplement envahir la France et s'ouvrir une voie vers Paris, vers la capitale. Il a même été question à un moment d'envoyer le roi à Chambord, hein, sur la Loire pour mettre à l'abri le gouvernement. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe. Alors pourquoi toute cette Europe s'est-elle coalisée contre la France? Elle a peur d'un axe Paris-Madrid en fait, enfin
oui,
Versailles-Madrid.
Il y a eu l'acceptation la succession d'Espagne, oui. Du testament de Charles II, au profit du duc d'Anjou.
Il faut expliquer que Charles II, fin des Habsbourg, n'a plus d'héritier.
N'a pas d'enfant. Voilà. Et évidemment, il y a deux héritiers principaux, c'est le duc d'Anjou, et puis c'est Charles, le fils de Léopold, l'empereur. Mm-hmm. Il y avait eu un certain nombre de traités de partage secrets entre l'Angleterre, les Provinces-Unies, la France. Les Provinces-Unies, c'est la Hollande. Et puis, bien sûr, l'empereur. Louis XIV hésite, il y a de grandes discussions au moment de l'acceptation. Finalement, il accepte. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution parce qu'il est persuadé que de toute façon c'est la guerre. L'empereur ne veut la guerre. Bon. Cela dit, au bout de quelques temps, l'Angleterre et la Hollande acceptent de reconnaître Philippe V. Malheureusement, Louis XIV commet un certain nombre d'erreurs. La première, c'est de réserver la succession, sa propre succession, en cas de nécessité, à Philippe V,
oui,
qui fait
là,
que les deux couronnes
le monde,
vont se trouver unies. La seconde, c'est d'occuper ce qu'on appelle les places de la barrière, donc dans la Belgique actuelle, des places qui avaient été fortifiées par les Espagnols. Et là, à nouveau, on renforce les défenses. Donc la France se comporte en pays conquis, et d'ailleurs même considère que l'Espagne est un protectorat. Les flottes françaises et espagnoles croisent en Amérique du Sud. La France est chez elle, dans l'Empire espagnol. Alors là, c'est quelque chose d'inadmissible, bien entendu, pour l'Angleterre. Donc la guerre va se profiler en 1702, à la suite de la Grande Alliance de La Haye, Grande-Bretagne, Hollande, Prusse et Empereur. C'est la guerre qui se déclare. Et là, toute une série de défaites qui vont.
Voilà, parce qu'il faut dire qu'en face, on a quand même, si je puis dire, pour parler donc des armées françaises, on a des généraux coalisés extrêmement brillants. Il y a le duc de Marlborough, le fameux Malbrook s'en va en guerre,
qui est de la famille de Churchill.
Et puis, il y a le prince Eugène de Savoie.
Eugène de Savoie, qui est un génie militaire. Donc, deux génies militaires.
Contre la France. Et nous, on n'a pas de génie.
Face à des généraux assez médiocres comme Marsin, Tallard, Villeroy.
Villeroy qui sera gouverneur de Louis XV plus tard.
Voilà. Donc, défaite. Il y a eu quelques succès sans doute. Enfin, défaite. Blenheim, donc Eustadt en 1704. Turin en 1706. Ramilly en 1706.
Ramilly, c'était sévère.
En 1708, Audenarde. C'est le duc de Bourgogne et le duc de Vendôme qui ne s'entendent pas, qui se disputent alors qu'ils sont censés défendre la France. Il y a des querelles épouvantables entre deux. La chute de Lille en décembre 1708.
C'est
voilà
pas rien, parce que perdre Lille, c'est perdre toute la Flandre, en fait. C'est gravissime.
Absolument. Et alors, il y avait deux lignes de ce qu'on appelait la ceinture de fer, deux lignes de fortification, un peu la ligne Maginot de Louis XIV. Et on va voir en 1711 ces deux lignes quasiment enfoncées. Et en 1712, la route de Paris va être ouverte avec la chute de l'Andrecy qu'on attend.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a cette dernière et ultime place de l'Andrecy, on va y venir dans un instant, qui tient encore, mais elle est encerclée, elle est assiégée par le prince Eugène, et on se dit que le jour où ça tombe...
La route de Paris est ouverte, il n'y a plus de fortifications entre Paris et l'Andrecy.
Ça tombe après la mort de monsieur le frère du roi, du grand dauphin, sa mort, et puis surtout du duc de Bourgogne, de sa femme, de leur fils, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à ces désastres publics s'ajoutent pour le roi Louis XIV des désastres privés. On en avait parlé, hein, de toute cette série de morts dans sa famille. C'est vraiment une fin de règne noire.
Et Louis XIV, qui croit beaucoup en la providence divine, se sent sanctionné Alors, par Dieu.
On a vu qu'en 1709, le 12 juin, il avait lancé cet appel à la population. On s'en est un peu... Alors, pendant un certain temps, il y a eu un sursaut, en quelque sorte. Et puis, les choses recommencent à tourner très mal.
Il y a eu un coup d'arrêt à Malplaquet. Vous savez, le maréchal Foch comparait la bataille de Malplaquet à la première bataille de la Marne.
C'est ça.
Et donc, c'est une bonne comparaison. On l'a arrêté, mais ce n'était pas suffisant. Parce que les mois suivants, à nouveau, les troupes anglaises et germaniques
continue de progresser. Alors, il y a un homme, un chef de guerre qui, à Malplaquet, a été blessé et va se trouver être fait duc et pair de France. C'est justement Louis-Hector de Villars. Alors ça, c'est un personnage qui arrive un petit peu comme... Est-ce qu'on peut dire qu'il est l'homme providentiel de Louis XIV et de Madame de Maintenon ?
C'est un personnage très 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 intéressant, plein d'ambition, un vrai baroudeur, un homme vantard. On l'a accusé d'être cupide, d'avoir rançonné l'Allemagne.
On va voir tout ça tout à l'heure.
Hein,
ce qu'il faut penser de tout ça.
Avide de gloire, qui rêve de l'épée de Connétable, et puis qui vit dans la magnificence, le luxe. C'est un personnage du XVIe siècle. C'est une espèce de condottière. On ne lui a pas laissé la bride sur le cou. Mais je pense que si on lui avait laissé la bride sur le cou, il aurait été capable d'organiser des armées, des rendez-vous d'armées, de conquérir des territoires. Louis XIV l'a tenu en main.
Il faut dire quand même, c'est que ce Villars rêve de l'épée de Connétable qui, à l'époque, n'est plus tenue par personne, parce qu'on a été un peu échaudé par la trahison du Connétable de Bourbon, ensuite par les problèmes du Connétable de Montmorency, enfin, etc.
Il y a eu l'huile, et d'une façon générale,
on se méfie de ce premier soldat de France et on n'a plus nommé de Connétable. Le Connétable, c'était donc le généralissime, en quelque sorte.
Exactement.
Et évidemment, Villars aimerait devenir Connétable. Il va bénéficier, disons-le, de cette situation tellement difficile des années 1711-1712, parce que non seulement il a des capacités militaires évidentes, non seulement il a beaucoup de chance au combat, ça compte beaucoup hein, dans les armes, mais en plus il a un talent que d'autres n'ont pas, c'est savoir se mettre en valeur.
Il est populaire et il est optimiste.
Et voilà.
Il est optimiste, il c'est un partisan de l'offensive, donc il va retourner la situation indiscutablement à Denain.
Et
pas tout seul.
À Denain, donc cette grande victoire de Denain, nous y venons dans le récit dans un instant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui revient maintenant sur la victoire inattendue de Denain.
Printemps 1712, le nord du royaume est déjà sous le contrôle des armées coalisées. Les troupes françaises tiennent le Quesnoy et l'Andrecy. Et puis, le Quesnoy et l'Andrecy, c'est très important parce que c'est ce qui ferme la vallée de la Sambre et donc c'est ce qui protège le Val-de-Loise et la route de Paris. Mais le Quesnoy tombe le 5 juillet 1712 et dès le 17 juillet, les impériaux, comme on dit, hein, c'est-à-dire les soldats ennemis, si vous voulez, commencent le siège de l'Andrecy. Et là, si l'Andrecy tombe, encore une fois, c'est la route de Paris qui est ouverte. Voici ce qu'écrit Voltaire dans son célèbre ouvrage sur le siècle de Louis XIV. Il dit en juin 1712, l'esprit de découragement général en France, et que je me souviens d'avoir vu, et oui, il était tout jeune Voltaire, mais il a connu ça, faisait encore redouter que l'Espagne, soutenue par Vendôme, ne retombât à sa perte. L'Andrecy ne pouvait pas tenir longtemps. Il fut agité dans Versailles si le roi se retirerait à Chambord sur la Loire. On commence donc vraiment à s'inquiéter beaucoup. On pense que l'ennemi va entrer dans Paris. La seule armée française qui reste pour barrer la route à l'ennemi, c'est celle de Villars. Le 16 avril, Villars a vu Louis XIV. Il a eu de nombreux entretiens avec le roi, mais là, il est à Marly. Il faut savoir que Louis XIV vit essentiellement à Marly à ce moment-là. Et donc, Villars vient le rencontrer à Marly. Et dans ses mémoires, il raconte l'entretien. Voici ce qu'écrit le maréchal de Villars. C'est lui qui parle. Ce jour-là, la fermeté du monarque fit place à la sensibilité de l'homme. Le roi laissa échapper des larmes et me dit d'un ton pénétré qui m'attendrit « Vous voyez mon état, monsieur le maréchal. Il y a peu d'exemples de ce qui m'arrive et que l'on perde dans quelques semaines son petit-fils, sa petite-fille et leur fils, tous de très grande espérance et tendrement aimés. Dieu me punit, je l'ai bien mérité. J'en souffrirai moins dans l'autre monde. Mais suspendons mes douleurs sur les malheurs domestiques et voyons ce qui peut se faire pour prévenir ceux du royaume. La confiance que j'ai en vous est bien marquée puisque je vous remets les forces et le salut de l'État. Je connais votre zèle et la valeur de mes troupes. Mais enfin la fortune peut vous être contraire. Eh bien, s'il arrivait ce malheur à l'armée que vous commandez, quel serait votre sentiment sur le parti que j'aurais à prendre pour ma personne? Autrement dit, le roi demande, est-ce qu'il doit rester à Versailles, enfin à Marly, ou est-ce qu'il doit partir? À une question aussi grave et aussi importante, écrit le maréchal de Villars, je demeurai quelques moments dans le silence, sur quoi le roi reprit la parole et dit: je ne suis pas étonné que vous ne répondiez pas bien promptement, mais en attendant que vous me disiez votre pensée, je vous apprendrai la mienne. Votre Majesté, répondis-je, me soulagera beaucoup. La matière demande de la délibération et il n'est pas étonnant que l'on demande permission d'y rêver. Eh bien, reprit le roi, voici ce que je pense. Vous me direz après votre sentiment. Je sais les raisonnements des courtisans. Presque tous veulent que je me retire à Blois et que je n'attende pas que l'armée ennemie s'approche de Paris, ce qui serait possible si la mienne était battue. Pour moi, je sais que des armées aussi considérables ne sont jamais assez défaites pour que la plus grande partie de la mienne ne puisse se retirer sur la Somme. Je connais cette rivière. Elle est très difficile à passer. Il y a des places qu'on peut rendre bonnes. Je compterai aller à Péronne ou à Saint-Quentin, y ramasser tout ce que j'aurai de troupes, faire un dernier effort avec vous et périr ensemble ou sauver l'État, car je ne consentirai jamais à laisser approcher l'ennemi de ma capitale. Voilà comment je raisonne. Dites-moi à présent votre avis. Et là, effectivement, Villars aura beau jeu d'approuver la position du roi. Ce qu'il faut dire, c'est que sur place, en Flandre, le prince Eugène a établi un dépôt à Marchienne et que depuis cette base, il a conçu toute une voie, il a aménagé tout un chemin fortifié qui mène au camp de Denain et qui permet au convoi de circuler à l'abri de la garnison française. La garnison française, à ce moment-là, est à Valenciennes. C'est Gérard Le Sage qui a très bien expliqué tout ça dans un livre sur Denain. Dans le camp du prince Eugène, écrit Gérard Le Sage, on appelle la suite des chemins fortifiés par le prince Eugène, le chemin de Paris. C'est vous dire si on est convaincu que la victoire est annoncée. Les lignes du prince Eugène s'étendent en vérité sur 60 km, ce qui est extrêmement vaste. C'est trop en vérité. Et là, Villars va profiter de cette situation. Il n'a qu'une solution, Villars. Il lui faut débloquer l'Andrecy. Alors il peut le faire de différentes façons. Finalement, il va décider de le faire en coupant la ligne de ravitaillement et en occupant le chemin de Paris. En vérité, cette solution, ce n'est pas lui qui l'a imaginée. Elle a été préconisée et chaudement recommandée par un conseiller au Parlement de Douai qui s'appelle Lefèvre d'Orval. Les 19 et 20 juillet, les Français vont donc franchir l'Escaut. Alors, le prince Eugène se dit « bah oui, c'est normal, ils vont tenter une opération contre ma propre armée de siège » et donc il renforce encore ses forces du côté de l'Andrecy. Le 21 juillet, Villars demande à deux de ses subordonnés d'attaquer le camp de Denain avec 30 bataillons et 30 escadrons. Et le 22 juillet, un gros détachement de la cavalerie impériale, appuyé par un certain nombre d'escadrons hollandais qui justement sont venus de Denain, qu'on est en train de dégarnir au passage, ces bataillons vont se déployer sous les murs de Valenciennes pour essayer de bloquer la garnison française à l'intérieur de ces murs. Le 23 juillet au matin, la décision de Villars est prise. Il ne va pas attaquer l'Andrecy, alors que Eugène lui est convaincu que c'est ce que va faire Villars. En vérité, les Français attaqueront sur l'Escaut le lendemain à l'aube. Seulement pour ça, il faut déplacer toute l'armée. C'est une manœuvre qu'il faut en plus faire non seulement de nuit, mais dans le plus grand silence. C'est un véritable exploit que vont accomplir les hommes de Villars.
De Garçons de la Noce, composé par André Flieder, Franck.
Imaginez un peu, sur 40 km, ce trajet des Français dans la nuit du 23 au 24 juillet 1712. Les voilà qui sont partis vers la vallée de l'Escaut. Alors on a mis des pansements aux sabots des chevaux, on a mis des chiffons autour des roues des chariots, etc. pour passer le plus discrètement possible, d'autant plus que on longe le dispositif ennemi, notamment les Hollandais qui sont là et les Hollandais qui tiennent le camp de Denain. Ils sont 20 000 à l'intérieur de Denain. Nain commandé par le comte d'Albermel et il surveille évidemment le chemin de Paris. Alors Eugène, lui, de son côté, ne s'inquiète pas trop. Il pense que tout ça n'est qu'une diversion de plus de Villars. Il pense que c'est une gasconnade de Villars, comme on dit. Et le maréchal de Saxe dira plus tard que ce jour-là, le prince Eugène a dit, alors qu'on venait de lui faire le rapport des mouvements de troupes françaises, il a dit « Eh bien, messieurs, il est temps d'aller déjeuner. » Il ne se soucie pas tellement de l'affaire. L'armée française commence aussitôt l'encerclement de Denain. Et sur les coups de midi, le maréchal de Villars se rend compte de ce qui est en train de se passer. Seulement cette fois, il est trop tard. Et à 1h de l'après-midi, les Français prennent l'offensive. En 20 minutes, ils ont franchi le fossé. Ils atteignent le parapet. La palissade ne peut pas vraiment résister. C'est la panique du côté des Hollandais. Et Albermel va bientôt se rendre. À ce moment-là, on se dit que les impériaux vont voler au secours des Hollandais. Mais oui, mais il y a le prince de Tingrie qui, pour la France, les attend à côté du seul pont qu'ils peuvent franchir, qui est le pont de Prouvy. Et au moment où il ne pourra plus contenir les assaut des impériaux, eh bien, Tingri va faire sauter le pont et l'on peut dire dès lors que la bataille de Denain est terminée et qu'elle est gagnée pour la France. Alors, le grand mémorialiste, le duc de Saint-Simon, qui déteste Villars, insiste sur l'hésitation du maréchal et sur le rôle décisif de Montesquieu dans toute cette affaire. Il lui dépêchera ordre sur ordre de s'arrêter, écrit Saint-Simon. Il dit que Villars empêche Montesquieu d'intervenir, de ne point attaquer, de l'attendre, le tout sans se hâter le moins du monde, parce qu'il ne voulait point de combat. Son confrère, donc Montesquieu, lui renvoya ses aides de camp, lui manda que le vin était tiré et qu'il fallait le boire, et poussa si bien ses attaques qu'il emporta les retranchements, entra dans Denain, s'y rendit le maître de toute l'artillerie et des magasins, tua beaucoup de monde, en fit noyer quantité qui tâchait de se sauver, et se mit en posture de s'y bien maintenir s'il prenait envie au prince Eugène de l'y attaquer. Et Saint-Simon, qui est décidément très favorable à Montesquieu, ajoute « Montesquieu eut le sens d'être sage et modeste, de laisser faire le matamor à Villars, qui se fit moquer de soi, de respecter la protection ouverte de Madame de Maintenon, donc protection pour Villars, et de se contenter de la gloire à laquelle personne ne se méprit. Ce fut à Fontainebleau un débordement de joie dont le roi fut si flatté qu'il en remercia les courtisans pour la première fois. » Pour Louis XIV, il n'y a aucun doute, il doit son salut à Villars. Aux yeux de Saint-Simon, vous avez bien compris que Villars s'arrogerait plutôt les lauriers dus à Montesquieu. Qu'en a-t-il été au juste? Et puis d'abord, qui était-il ce monsieur de Villars? C'est ce que nous allons voir maintenant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et nous sommes toujours en compagnie sur Europe 1 de l'historien Jean-Christian Petit-Fils. Et Fayel Hadj nous a rejoint. Il est l'auteur du livre Le Maréchal de Villars, l'infatigable bonheur, dans la collection Portrait de Belin.
L'infatigable bonheur, sous-titre de cet ouvrage, et justement, c'est une expression de Saint-Simon qui n'était, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas l'ami de Villars, loin de là. Alors, Fayel Hadj, on va revenir, si vous voulez bien, sur la vie de Louis-Hector de Villars. Mais avant ça, j'aimerais qu'on précise tout de suite les raisons de la faveur incroyable dont il jouit à Versailles et Marly, et notamment dont il jouit auprès de Madame de Maintenon, qui, disons-le, fait un peu la pluie et le beau temps dans l'ombre de ce Louis XIV vieillissant. Il ne faut pas oublier que M. de Villars est le fils de M. de Villars, si je puis dire.
Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le maréchal de Villars donc, était le fils de Pierre de Villars, qui était vraiment un personnage à la cour. Il avait le surnom de Orondate, qui est un personnage d'un roman de Madame de Scudéry. Et donc Orondate, donc Pierre de Villars, avait connu la veuve Scarron quand elle était dans la
gêne. C'est connu au sens biblique du mot. Hein.
Bien sûr, il n'y a pas eu de liaison.
Il n'y a pas eu de liaison?
Non.
Ah bon, en tout cas, ils étaient proches, ils s'aimaient beaucoup.
Oui, mais ça n'allait pas jusque-là.
Alors en tout cas, Madame de Maintenon aimait beaucoup cette famille. Elle a pris très vite le jeune Villars sous son aile.
Qu'elle a connu dans son enfance.
Et elle l'a constamment vanté auprès de Louis XIV, ce qui s'est allié, Jean-Christian Petit-Fils, de façon merveilleuse avec le tempérament même d'un Villars qui était très prompt à se faire valoir en personne. Il était doué pour ça.
Ah oui, c'est un personnage, comme on disait tout à l'heure, qui est très intrigant. Ambitieux, dévoré d'ambition, ne pensant qu'à accumuler les titres. Il est prince de Martigues, il est vicomte de Melun, parce qu'il achète la propriété de Vaud, la propriété de Nicolas Fouquet.
Oui, oui.
500 000 livres, c'est une bouchée de pain, alors que Fouquet a dépensé 4 millions dans ce château. Il faut toujours plus.
Et il a non seulement ce magnifique et célèbre château de Vaud, qu'on appelle nous maintenant Vaud-le-Vicomte, mais il possède aussi un sublime hôtel à Paris. Paris, hein, l'hôtel de Villars qui est extraordinaire. Donc en fait, il mène très grand train, si je puis dire. Alors, d'où vient-il ce Villars? Vous nous avez dit qu'il était le fils de Pierre de Villars. Il ne s'étend pas dans ses propres mémoires, il ne s'étend pas vraiment sur sa jeunesse. Hein.
Alors, il ne s'étend pas vraiment dans sa jeunesse, mais par contre, comme aussi il aime beaucoup affabuler, il a beaucoup raconté d'histoires fausses sur sa généalogie. Il s'est présenté comme un grand descendant d'une grande famille qui remonte à l'époque médiévale, or que finalement sa famille n'a été anoblie qu'en 1586.
Oui, c'est récent hein, tout ça, c'est de la noblesse de fraîche date. Ils sont donc originaires, vous dites, du Lyonnais. Il a un sens incontestable de la stratégie quand même. Il a une vision sur le champ de bataille, ce jeune Villars.
Alors, il faut voir un peu les époques. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment un jeune homme très téméraire, mais tellement téméraire que pour des coups d'éclat...
Tuer les chevaux sous lui.
C'était parfait, mais mm-hmm. pour commander une armée, ce n'était pas quelque chose de positif, ce qui explique en partie la lenteur dans son avancement jusqu'à l'âge de 35 ans.
Alors lui, il est convaincu que s'il ne grimpe pas plus vite les échelons, c'est parce qu'il a un ennemi en la personne du très puissant ministre Louvois à l'époque. Hein. Il prend Louvois en grippe, vraiment.
Voilà, c'est-à-dire que Louvois, bien sûr, avait des mésententes avec beaucoup de monde.
Oui.
C'est le cas de le dire. Et donc, le père de Villars avait une mésentente avec Louvois, si bien que Louis Hector, quand il veut souligner l'animosité de Louvois envers son père, évoque dans ses mémoires des promotions que son père aurait dû avoir, mais quand on voit les dates, les véritables dates au niveau de la chronologie, on voit bien que Villars truque la chronologie pour montrer que son père était victime de Louvois, et il applique la même chose pour son propre compte, alors que finalement c'est surtout la témérité qui a fait qu'il était mis à l'écart. Mais quand même, il y a eu l'émergence de Madame de Maintenon, et là, il y a eu quand même un véritable décollage.
Ah oui, avec Madame de Maintenon, d'un seul coup, sa carrière prend un autre tour.
Ah, tout à fait.
Et on disait tout à l'heure qu'il était doué pour se mettre en valeur. Est-ce qu'on pourrait pas dire quasiment qu'il avait un vrai sens de la communication, en fait hein?
Complètement. D'ailleurs, c'est de cette manière qu'il a pu finalement devenir maréchal de France. Parce que, alors, Villars a raconté une fable disant que les soldats, au moment de la bataille de Friedlingen en 1702, l'ont proclamé maréchal de France sur champ de bataille. En fait, Voltaire, dans le siècle de Louis XIV, a repris cette histoire des mémoires manuscrites de Villars. Et donc, c'est Voltaire qui a véhiculé l'histoire.
Une fois de plus, c'était encore une légende véhiculée par Voltaire.
Complètement, oui. Complètement, mais qui a fait autorité après. Et Villars, quand il avait remporté donc ce petit combat, qui n'était vraiment pas un grand combat, il envoie des missives à la cour. Et alors, après, progressivement, il y a d'autres avis qui viennent, disant qu'il y avait de lourdes pertes, que c'était une bataille qui n'était pas décisive. Mais Villars, il a conscience de ça, donc il fait une surenchère. Et à un moment, il envoie une lettre en disant... On est allé dans les villages alentours, et finalement, dans ces villages, on voit bien que le résultat de la bataille est plus grand qu'on le pensait. Beaucoup de blessés, des prisonniers. Et donc, quand on voit l'arrivée de cette lettre à la cour, le lendemain, on envoie un messager avec une lettre au maréchal de Villars.
Incroyable. Villars est promu. Et on peut imaginer, parce que ça, on ne connaît pas, on n'est pas placé, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le secret de l'appartement de Madame de Maintenon, mais on peut imaginer qu'elle a tout fait, elle a dû dire, mais enfin, cet homme est extraordinaire, regardez comme il sert bien les armées de votre majesté. Hein,
Disons qu'elle avait quand même une coterie, c'est vrai, elle avait ses champions, Boufflers ouais. et Villars, mais alors aussi on peut dire que lui-même, Villars, avait su s'appuyer sur de bons partis. Et Madame de Maintenon, bien sûr, s'est toujours réfugiée vers elle quand il y avait un problème ou alors quand il avait besoin de demander quelque chose au roi.
Alors Friedlingen lui a valu d'être maréchal et Malplaquet lui a valu d'être pair de France.
Voilà, puisque en 1705, il avait été fait duc, quelque chose qu'il réclamait dès 1703. Il a dit « Pour me porter chance, je voudrais être fait duc ». Alors, on lui a dit de patienter quand même. Alors on l'a envoyé chez les Camisards et il disait « J'ai établi la paix » de manière très bancale.
Oui, je veux là, il y aurait beaucoup à dire.
Hein, exactement. Oui. Donc il dit « Je veux être fait duc ». Il dit « Faut patienter ». Et ce n'est qu'après une campagne sur la Moselle, une campagne défensive, où il a pris de bonnes dispositions, mais aussi il a profité du fait que Marlborough était sur un terrain où on pouvait peu s'alimenter. Les Anglais l'appelaient « The Hungry Hill ». Eh bien, là, il a été fait duc. Et mais aussi, on attendait qu'il achète une terre, donc Vaux-le-Vicomte. Et Malplaquet, donc, il a été fait pair après Malplaquet. Il avait demandé d'abord, quand il a eu le commandement de l'armée de Flandre, en disant « Ça va me porter chance ». Il écrit ça à Madame de Maintenon. « Nommez-moi pair de France ». Et a dit « Ne me demandez pas de faire une requête au roi qui sera refusée. Ne me donnez pas ce chagrin-là ». Et donc, il a été fait pair après la blessure de Malplaquet, où là aussi, il y a eu d'énormes polémiques, notamment avec ses lettres de pair de France, où il s'attribue toute la gloire en disant que s'il n'avait pas été blessé, la bataille aurait été gagnée, ce qui est tout à fait faux.
Donc, avec tout ce que vous nous dites là, j'imagine que la réponse à ma question de tout à l'heure va être assez pimentée. Est-ce que, véritablement, c'est bien le maréchal de Villars qui a gagné la bataille de Denain ? Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
J'arrive à rire sur Europe 1, une nouvelle composition d'André Philidor, extrait du mariage de la grosse Catos.
Alors, sur Facebook, Frédéric nous dit « Je suis justement en train de lire la biographie de Fadi Elhadj. N'oubliez pas de citer la lettre où la Palatine raconte qu'il faisait des propositions indécentes aux officiers allemands sur les campements. » Alors là, voilà la lettre en question du 22 septembre 17. « Le vice d'aimer les jeunes garçons est la plus grande passion du duc de Villars, écrit-elle. Le joli prince d'Esnard voulut une fois lui faire donner des coups de bâton parce qu'il lui avait fait une déclaration d'amour. » C'est vous qui citait ça, Fadi Elhadj?
Oui, c'est vrai. J'avais cité cette phrase. Bon, c'est la seule occurrence que j'ai trouvée concernant l'homosexualité de, disons, partielle de Villars.
Alors qu'on sait que par ailleurs, il était un vrai coureur de jupons. Hein,
ça, ah, complètement. Oui. Il adorait faire la cour chez les comédiennes de théâtre, même à son ami le prince Eugène, parce qu'il était ami avec le prince Eugène.
Oui, c'est ça. Il s'écrivait. Les deux chefs des deux camps opposés étaient par ailleurs. Ça, c'est toute la subtilité de cet ancien régime. C'est qu'on s'entend bien en dehors des champs de bataille.
Voilà, genre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer pour notre époque, comme si on disait qu'il y a une correspondance Montgomery-Rommel.
Voilà. Là, c'est pas la guerre en dentelle.
Voilà.
Parce que, pas tout à fait encore.
Denain a été pris à la baïonnette. Hein. Oui.
Et donc, peu de temps avant sa mort, donc fin 1733, début 1734, Villars écrit à Eugène, quand même, donc c'est, voilà, c'était en 1733, et il explique qu'il a toujours sa loge à l'opéra, et donc comme ça, il peut s'éclipser pour aller voir les comédiennes. Et ça, ça a toujours été quelque chose chez lui, la passion pour les petites comédiennes, les petites amourettes. C'était un grand classique chez lui.
Alors, à l'instant, Jean-Christian Petit-Fils vient de nous dire que Denain avait été prise à la baïonnette. Mais par qui ? On a l'impression que sur le terrain, c'est quand même largement Monsieur de Montesquieu qui agit.
Et là, c'est Saint-Simon qui a raison, même si il a fait certaines exagérations, puisque Saint-Simon, il faut toujours voir ce qu'il lit. Certes, il y a toujours un côté langue de vipère, mais en même temps, quand on gratte un petit peu, on voit qu'il y a beaucoup de fond de vérité. Mmh. Alors, pour Denain, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de la manœuvre, elle est venue non pas d'un militaire, mais d'un conseiller au Parlement de Flandre, Lefebvre d'Orval, qui, justement, était du pays, et en se promenant, il avait constaté donc le dispositif du prince Eugène et il s'est dit qu'il fallait attaquer le campement de Denain pour justement couper les vivres. Donc il avait souvent donné même des idées à Villars, envoyant des lettres à Villars ou alors au secrétaire d'état de la guerre voisin pour suggérer des manœuvres. Alors Villars, ça l'amusait, mais en même temps ça l'agaçait en se disant « Mais qu'est-ce qu'un civil pourrait... Pourquoi un civil essaie de se mêler d'affaires du militaire ?» Mais alors, la manœuvre de Denain, quand Lefebvre d'Orval l'a imaginée, eh bien, il a envoyé ça
à
voisin.
Donc, ce conseiller de Douai. Hein.
Voilà, en fait, c'était à Douai en 1713, parce que ça avait été déplacé après la chute de Tournai. Mmh. Mais donc, Douai, quand ça a été repris, donc, après, on a établi le Parlement à Douai, en effet. Et donc, Lefebvre d'Orval écrit à voisin et dit « Essayez de suggérer au maréchal de Villars cette idée. » Vous savez, c'est un petit peu, chez les esprits vaniteux, on disait ça aussi de Condé, c'est faire croire que l'idée vient de lui, comme ça, il va l'appliquer. Donc, voisin travaille Villars, on va dire.
Le ministre, en l'occurrence.
Voilà, oui. Et donc Villars, il se dit après que l'idée est bonne. Alors, il y a eu des avis contradictoires, mais il se dit « Bon, on va le faire ». Mais alors, donc, c'est une action qui est conjointe, finalement, puisque Lefebvre d'Orval a d'abord l'idée, Villars, Son moment déterminant, c'est à la veille de la bataille. Quand il franchit donc la Sambre pour dire qu'on fait le mouvement de diversion pour faire croire qu'on va secourir l'Andrécy. D'ailleurs, il a envoyé un faux message.
Donc en fait, on file sur Denain. Oui.
Voilà. Et pour que soit intercepté par Eugène, pour qu'il soit rassuré. Et donc, il y a un moment, par contre, il franchit la rivière et se dit « Non, là, c'est trop facile. J'envoie à Montesquieu une consigne en disant « Faut tout arrêter ». Et là, Montesquieu a dit qu'il faut y aller, il faut tirer
le
vin.
Ce que raconte exactement Saint-Simon, il dit que Montesquieu a dit que le vin était tiré, il fallait le boire, etc. Et ce Montesquieu, en vérité, il a été dans le feu de l'événement, l'élément de décision, parce qu'on voit bien que le maréchal de Villars, lui, hésitait, mégotait, si je puis dire.
Jean-Christian Petit-Fils. C'est Pierre d'Artagnan.
Oui, d'ailleurs. Oui.
Maréchal, c'est le cousin
c'est
de
d'Artagnan.
Du D'Artagnan, de notre D'Artagnan. Pierre, qui a pris le nom de maréchal de Montesquieu. Oui. Alors, qui a gagné, c'est bien difficile à dire, parce qu'il y a quand même eu, le rôle de Villars est quand même très important dans la concentration des troupes, dans l'organisation de l'attaque.
Disait Foch, je ne sais pas qui l'a gagné, mais je sais bien qu'il l'aurait
voilà
perdu.
Ce qu'on peut dire. Non. Oui. On peut dire, je voudrais ajouter juste une chose, c'est que le livre de Fadi El Hadj est très intéressant et très équilibré de ce point de vue-là, parce que, en effet, Villars a de très gros défauts, mais aussi il a de grandes qualités que vous soulignez parfaitement. Alors voilà, donc est-ce que c'est toujours la même chose?
Ça serait quand même intéressant de les énoncer, les qualités en question, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que mine de rien, et comme ça au passage, depuis le début de l'émission, on a fait à peu près que citer les affreux défauts.
C'est pour ça que j'ai voulu rétablir.
Mais voilà.
C'est le courage, l'engagement au combat,
la loyauté envers le roi et certains ministres.
Il a failli un moment. On va dire que la blessure à mal plaqué lui a porté un coup moral. Et même, il était dans le parti de la paix en 1710.
Il était blessé à la jambe, il faut dire. Hein.
Voilà, au genou. Et d'ailleurs, après ça, il a été dans le parti de la paix pendant un temps en 1710. C'est le ministre Torcy qui le dit dans son journal. Mmh. Et donc, Villars était à ce moment-là aussi un peu plus timoré, surtout qu'il savait le poids qu'il avait sur la tête concernant le commandement de l'armée de Flandre, c'est-à-dire que si cette armée est écrasée, eh bien, disons que le chemin de Paris est libre. D'ailleurs, il y avait un livre sur la campagne de 1711 qui a été publié à La Haye et qui annonce pour 1712 l'entrée à Paris, la victoire. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose de vraiment prévu.
Voilà donc encore une qualité qui se transforme en défaut.
Et à 81 ans, il reprendra du service dans la guerre de succession de Pologne.
Manière
il fera la campagne d'Italie et mourra à Turin
c'est
en 1734.
D'ailleurs, on a dû vraiment
mais on avait besoin de lui. Oui, mais on avait besoin de lui.
C'était
un symbole.
Voilà,
c'était
un symbole comme Berwick. Mais il était en très mauvaise santé à ce moment-là. Mais
Il a accepté.
L'infatigable bonheur, ça vient d'où cette expression alors
de Saint-Simon.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, il considérait que Villars était un chanceux, qu'il était chanceux. D'ailleurs, même le chevalier de Follard considérait que Villars était surtout heureux. Et donc, pour lui, c'était, il avait un coup de bol plusieurs fois, alors que non, il avait quand même des qualités tactiques notoires qui font qu'il avait non seulement de la chance aussi de survivre et de commander, mais aussi donc de mener les troupes.
Le maréchal de Villars, l'infatigable bonheur de Fadi El Hadj, c'est publié par Belin dans la belle collection Portrait, où a été d'ailleurs publié également l'ouvrage du Père Combault sur Louis XV. Nous le recevrons bientôt, il a reçu le prix Hugues Capet. Merci beaucoup Fadi El Hadj d'être venu nous parler de ce personnage, j'allais dire tout en complexité. Finalement, on se rend compte qu'il n'est pas si complexe que ça. Mais en même temps, il est drôle, il est très vivant, il nous rappelle un certain nombre de personnalités contemporaines peut-être. Merci beaucoup Jean-Christian Petit-Fils, à bientôt. Je renvoie nos auditeurs à tous vos livres fondateurs et notamment à Louis XIV, Le métier de roi, mémoires et écrits politiques. C'est publié chez Perrin en octobre dernier.